détail, les problèmes techniques sont résolus. On peut passer à la partie plus substantielle, cette belle fête de la Sainte Famille qui nous rassemble aujourd'hui, eh bien, dans ce beau lieu qui est à l'écart, qui est dans un désert lui-même. Il y a ce rite de la présentation qui a été choisi pour célébrer, pour illustrer cette fête de la Sainte Famille. Les trois personnes qui constituent la Sainte Famille, on les voit engagées dans le rite même qui nous est décrit. En fait, il y a deux rites dans ce rite dit de la présentation. Le principal, c'est la présentation de Jésus. Et bien sûr, Jésus est concerné. Mais il y a aussi, c'est la fin de la période de purification de Marie, et elle vient chercher la bénédiction rituelle qui met fin à la purification qui était liée à sa grossesse. C'est elle qui offre le couple de tourterelles. On n'offre pas de couple de tourterelles pour Jésus, mais on offre néanmoins un sacrifice parce que, et ça c'est Joseph qui intervient, parce que le Père doit racheter le premier-né. Alors il peut le faire sous une forme de paiement, il paye une messe en quelque sorte si vous voulez, ou bien il offre lui aussi un couple de tourterelles. Donc, les trois personnes de la Sainte Famille sont actives dans ce rite-là, même Jésus, qui est pourtant un nouveau-né. Mais Jésus est spécial, nous le savons bien. Et puis nous croyons nous-mêmes qui emmenons à l'Eucharistie les enfants en très bas âge, eh bien que Dieu les bénira, que Dieu les aime bien, ces enfants-là. Marie, donc, c'est elle qui vit la purification. Jésus n'a pas besoin d'être purifié, il est la pureté même. Mais il est le symbole de la consécration à Dieu. Et Marie consacre son fils et Joseph consacre son fils, ce fils qu'il a reçu du Père. C'est une famille consacrée qui doit servir de modèle à toutes les familles chrétiennes. Ainsi déjà se renforce l'idée de la monogamie, puisqu'avec le christianisme, la polygamie a été supprimée. La consécration des premiers-nés. Alors, cette consécration est liée à celle des prémices. On se souvient qu'on consacrait à Dieu les prémices des récoltes, des vendanges, tout ce qui était agraire, mais aussi du troupeau. Et enfin, des premiers-nés qui est mis en relation avec la sortie d'Égypte pour, lorsque la plaie frappe les Égyptiens, leurs premiers-nés, ceux des Hébreux, sont épargnés. On pourrait dire donc, par extension, que le premier-né, c'est la prémisse, que la prémisse signifie donc nos projets, nos bonnes intentions, nos premiers mouvements vertueux vers Dieu, nos premières bonnes actions, les prémices des bonnes actions, prémices peut-être d'une vocation particulière. C'est cela que nous présentons à Dieu. Et ça, c'est une grande vérité dans l'ordre de la vie spirituelle. Dieu veut que nous fassions les premiers pas. Il ne nous demande pas de parachever l'édifice spirituel. Il ne nous demande pas d'être impeccables, de ne pas avoir de fautes, de ne pas avoir de pas être tordu quelque part. Il nous demande d'avoir cette bonne intention de départ, de le chercher, de désirer l'aimer. Et c'est seulement en désirant aimer Dieu qu'on finit par l'aimer véritablement. Mais au départ, personne n'aime Dieu. C'est curieux, puisque nous sommes ses enfants. Mais c'est ainsi, et nous le comprenons bien, puisque la terre est malheureusement bien éloignée du ciel et un grand mur les sépare. Donc, les prémices, c'est Dieu qui les porte à leur achèvement. Et il faut voir, Jésus nous a montré l'exemple en se référant toujours au Père. Il ne s'est jamais attribué sa propre réalisation, sa propre mission, Et toutes ses œuvres, il les a toujours consacrées au Père, comme il a été lui-même, en tant que premier-né, consacré au Seigneur dans ce texte. Les Égyptiens, leur premier-né à eux, eh bien, leur prémisse, les bonnes intentions du monde, ne sont porteuses d'aucune fécondité parce qu'elles ne sont pas consacrées à Dieu. Les bonnes intentions du monde, il y en a encore. Il ne faut pas exagérer, tout le monde, le monde aspire à la paix. Et encore, enfin, une paix relative en tout cas. Et il aspire à la prospérité, il aspire à l'immortalité, ô combien. Il y a plein de... On pourrait multiplier les bonnes intentions des gens qui ont la mentalité du monde et qui sont plus terre à terre en général, mais qui sont de bonnes intentions pourtant. Et curieusement, on a l'impression que tout le bien se change toujours en mal dans la logique terrestre, dans la logique des hommes qui vivent loin de Dieu, des sociétés qui vivent loin de Dieu. C'est ainsi, c'est parce que Dieu seul est la véritable fécondité, Dieu seul est la vie. Jésus disait lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer dans ce beau royaume de la vie sans passer par moi. Jésus, c'est le premier-né des fils de la lumière. Et il brille au moment de sa présentation au temple de façon admirable. Il brille au milieu de la Sainte Famille. Il brille, eh bien, à Nazareth, où il va être porté par ses parents. Là, il n'est pas question qu'il marche pour y aller. Nazareth, c'est ce retour à Nazareth, c'est la vie cachée. Dire la Sainte Famille, c'est dire vie cachée, mais avec ce que Jean-Baptiste dira déjà et qui résonne, cet avertissement prophétique, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Heureusement pour le monde, Dieu est là parmi nous. Alors le monde ne le suit pas, ne le choisit pas, voire le persécute, cet enfant-là, et c'est pourquoi il doit se cacher. Mais il est là au milieu de nous. S'il n'était pas là au milieu de nous, nous serions en enfer, le royaume où Dieu n'est pas. Nazareth, la Sainte Famille, ça évoque pour nous ce climat de la crèche, climat d'amour, et véritablement, ce climat-là, il est inégalable. C'est celui dans lequel les âmes ouvrent les yeux au monde, dans lequel les âmes croissent, comme Jésus, hein, en sagesse et en intelligence, en grâce, devant Dieu. La famille est en quelque sorte le désert qui nous protège du monde. Un monde non christianisé, s'entend, hein, c'est le sens johannique du terme que j'emploie. Mais notre monde à nous, dans lequel nous vivons, s'éloigne tellement vite de sa source chrétienne qu'il devient vraiment de plus en plus implacable. Que dire d'autre de la Sainte Famille? Eh bien, prions-la, prions ses membres. C'est unique, la Sainte Famille. Les membres sont Dieu lui-même ou les deux plus grands saints de l'Église catholique. Prions-les. Leur intercession est si forte. Prions-les pour les familles, nos familles d'abord. Et puis pour les familles en général, dont le monde propose toutes sortes de caricatures, mais qui... jusqu'à nier, c'est le gender, jusqu'à nier la nature elle-même, ce qui est dans la création. Il y avait déjà eu un progrès immense du christianisme avec, justement, la suppression de la polygamie, mais donc une possibilité vraiment de consacrer sa famille à Dieu, parce que quand c'est trop multiplié, trop nombreux, on est au niveau du clan, de la tribu en Afrique, quoi. Mais là, les enfants ne connaissent finalement que leur mère, leur père, ils ne sont jamais sûrs de son identité. Et c'est un monde, le monde tribal, qui est lié, on pourrait le mettre en relation justement avec la polygamie, quelque chose où l'enfant, eh bien, est d'emblée consacré à la société, au monde, mais pas à Dieu. Pour être consacré à Dieu, il faut qu'il y ait une intériorité qui se développe. Et ça, c'est vraiment le modèle chrétien de la famille qui permet ce développement. Intercédons donc pour toutes les familles, demandons à Dieu de bénir nos familles et célébrons maintenant avec joie cette sainte famille qui nous sert de modèle et de lumière dans la nuit.